Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale célèbre la Journée internationale de la francophonie. Pour l'édition 2017, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a décidé de lancer la campagne « J'aime, je partage », histoire de conforter la place de la langue française dans le monde, qui, forte de 274 millions de locuteurs, se porte bien au dire de l'OIF. Dans un entretien accordé à ONU Info, Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, réaffirme la place incontournable du français sur les cinq continents. Au micro d'Isabelle Dupuis, elle fait le point sur les ambitions de la francophonie économique et parle aussi des initiatives citoyennes lancées par les jeunes francophones.
Je dirais que c'est une langue qui sert de trait d'union à des pays, donc des États et des gouvernements sur les cinq continents. Nous sommes désormais 84 États et gouvernements. Et ce trait d'union nous permet de coopérer, d'entreprendre, de penser, de nous mobiliser, d'échanger de nos solutions, de nos meilleures pratiques. Et dans l'état actuel du monde, il est tellement important de pouvoir construire des alliances fortes, de pouvoir faire œuvre de volonté commune. Donc, en ce sens, le français se porte bien. La langue française, qui est bien sûr la troisième langue des affaires, puisqu'il faut parler aussi de nos économies, c'est important. L'humanité s'est construite comme ça aussi, autour de la volonté des peuples de commercer ensemble, dans le sens le plus noble du terme. Et puis, je dirais, pour échanger de nos savoir-faire et de nos savoirs tout court, et en même temps faire front commun face à des défis majeurs qui ne nous épargnent pas et qui exigent que l'on soit de plus en plus unis et forts et ensemble.
Alors, combien de locuteurs de la langue française y a-t-il dans le monde ? Y a-t-il des régions où le chiffre augmente et d'autres où il est au contraire en recul ? Quelle est la géographie du français ?
En fait, le français demeure la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents. Elle est la deuxième langue la plus enseignée. Je le disais, la troisième langue des affaires. Et ce qui est bien, c'est que l'espace francophone représente un bassin de 800 millions de personnes. Et sur ces 800 millions, vous avez plus de 240 millions de personnes qui parlent le français et 212 millions quotidiennement. C'est dire que c'est quand même une langue qui engage, qui permet de créer des liens, qui permet de faire et de réaliser énormément. Et ce qui est formidable dans ce mois de la francophonie, autour du 20 mars, mais dans nombre de pays, et pas seulement de l'espace francophone, hein, mais en Chine, comme au Brésil, comme au Japon, la langue française est célébrée partout. Et cette année, on a décidé, comme thème, de dire « j'aime, je partage ». En célébrant un peu et en exploitant au mieux l'espace numérique, « j'aime » comme on dit « like » et « je partage » comme on dit « share ». Mais c'est vraiment une occasion pour nous de nous dire ensemble comment et sur quoi nous nous engageons avec énormément de détermination, de passion et de conviction. Que ce soit sur des questions environnementales, des questions face au réchauffement climatique, où nous sommes très mobilisés depuis très longtemps, que ce soit sur des questions de défense des droits et des libertés, sur des questions aussi de croissance partagée et de développement responsable. Nous sommes aussi très, très, très engagés sur l'autonomisation économique des femmes, sur l'appui, un appui mais conséquent à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, que ce soit par exemple pour nous dire libres ensemble avec quantité de jeunes de tout l'espace francophone qui, face à la montée de cette tendance au repli sur soi, parfois de ces discours haineux, ont envie de s'associer autour de valeurs qui participent à cet humanisme intégral que nous défendons. Et nous voyons en tout cas avec cette campagne que nous avons lancée après que plusieurs de nos pays aient été frappés par le terrorisme, comment très vite c'est devenu un mouvement où les jeunes ont voulu montrer par la force du nombre qu'ils sont des centaines de millions à penser autrement et à voir le monde autrement. Et ça a créé une occasion, en tout cas avec cette plateforme que nous avons construite, pour beaucoup de jeunes de se rejoindre, de créer du lien et de montrer leur volonté d'agir, d'inventer, de créer, d'avancer ensemble. Et c'est tellement formidable de voir tous ces jeunes qui viennent verser dans cette plateforme leurs initiatives citoyennes. Ce sont des jeunes qui sont porteurs de projets aussi d'entrepreneuriat social, qu'on a décidé même de créer autour de ça un autre programme qui s'appelle Finance Ensemble pour soutenir ces initiatives des jeunes.
«
Avez-vous déjà choisi certaines de ces initiatives? Vous pouvez nous donner une idée de ces différents projets
d'entrepreneuriat? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, en raison de leur appétence et leur maîtrise pour les nouvelles technologies, créent des applications qui sont d'utilité publique. Extraordinaire, mais vraiment, par exemple, je vous apporte un exemple d'un jeune du Burkina Faso qui a travaillé avec beaucoup d'ardeur à créer une application qui va régler un problème majeur pour tout le continent africain. Vous savez que 55% des populations africaines, 55% sont sans existence légale. Donc cette question de l'état civil, elle est majeure. Donc ce jeune entrepreneur a créé une application qui permet d'enregistrer immédiatement chaque enfant qui naît. Donc déjà, on est en train de l'implanter au Burkina Faso et d'entrer tout de suite les données concernant cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon, dans l'état civil national et avec des données aussi sur ses parents. Et ce fichier va l'accompagner. C'est comme une seconde naissance. Moi, j'ai pu assister au moment de cette captation de données et c'est remarquable. Alors, cela veut dire que, d'une part, on va pouvoir, grâce à cette application, donner aux pays la possibilité aussi de mieux penser leur politique de santé publique, d'éducation, leur politique sociale et économique, avec ces données qui sont absolument capitales. Autrement, toutes ces personnes qui sont sans existence légale sont extrêmement vulnérables. Et ce sont des personnes qui sont privées aussi de leur possibilité, de leur capacité de participer, ne serait-ce qu'à la vie démocratique de leur pays et à l'essor de leur pays. Donc voilà, ce qui nous plaît beaucoup en appuyant comme ça les initiatives venant de la jeunesse, c'est de voir comment, rien qu'avec cet exemple que je vous donne, des pays africains réussiront, parce qu'il faut à peu près 2 ans pour l'implanter dans un pays, réussiront en 2 ans à faire un bond et à accomplir ce que l'Occident a mis 200 ans à réaliser. Donc je pense qu'en étant et en investissant à la fois dans ces initiatives qui sont portées par les jeunes et par les femmes aussi, qui sont des forces vives essentielles, on se rend compte que l'on peut vraiment faire bouger les lignes, on peut vraiment changer des situations que l'on croyait bloquées.
Justement, par rapport aux femmes, vous étiez récemment au siège pour participer entre autres aux travaux de la Commission de la consolidation de la femme. Quel était votre appel? Qu'attendez-vous de l'ONU? Quelle synergie voyez-vous entre l'OIF et l'ONU? Sur quel dossier travaillez-vous?
Alors, c'est nous, les organisations multilatérales et internationales, nous ensemble, parce que l'on sait que l'ONU et l'OIF travaillent énormément ensemble sur plusieurs fronts. Et je dirais qu'en ce qui concerne la mobilisation pour l'autonomisation économique des femmes, l'exigence, mais vraiment, et l'urgence, et la responsabilité de passer de la parole aux actes. Écoutez, voilà, depuis Beijing, que nous disons que nous avons fait l'état des lieux, nous avons posé les diagnostics, nous connaissons les problèmes. Et nous nous rendons compte que très peu a été vraiment porté plus loin et peu d'objectifs que nous nous étions fixés ont été réalisés. Là maintenant, sur les objectifs du développement durable, il nous reste 13 ans à peine. Alors il nous faut vraiment investir autant d'efforts que l'on a su vraiment placer pour dire les violences qui nous sont faites, pour dire les injustices, pour dire l'insensé, quoi, parce que ne pas reconnaître l'apport riche et nécessaire des femmes est un manque de vision, c'est totalement insensé, c'est un manque d'intelligence même. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer vraiment de la parole aux actes avec des actions et des programmes conséquents que nous devons porter ensemble. L'idée n'est pas de rester dans l'éparpillement de nos forces et de nos idées, mais vraiment de voir que des politiques soient vraiment dans la continuité de la mobilisation et des diagnostics qui ont été posés. Combien de textes, combien de conventions laissées sans suite, sans lendemain, cela devient autant de trahisons. Donc nous, de l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, parlant d'autonomisation économique des femmes, nous avons décidé justement d'avancer avec des programmes très concrets, très conséquents pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans toutes ces filières où les femmes sont très présentes, mais de manière structurante et en même temps soutenir aussi celui des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Parce que les deux vont ensemble. Et ce sont les deux catégories, je dirais, dans nos sociétés qui sont laissées dans la marge. C'est-à-dire que beaucoup, par exemple, d'institutions financières hésitent à investir et à injecter des fonds dans des initiatives qui sont portées par des femmes et par des jeunes, disant que c'est là peut-être un investissement risqué. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est que l'on fait courir beaucoup de risques au monde en ne le faisant pas. C'est-à-dire en n'investissant pas dans ce que ces forces vives ont à offrir, dans ce qu'elles réalisent, dans ce qu'elles portent, même en termes d'innovation, en termes vraiment de participation dynamique pour la croissance et le développement durable de nos pays. Donc, nous nous disons qu'en faisant cela et en déployant, par exemple, des incubateurs et des accélérateurs de très petites et moyennes entreprises dans des filières qui sont créatrices d'emplois, que c'est une façon responsable d'investir dans du capital humain et de contribuer à la stabilité du monde.
Pour en revenir aux Français, vous avez évoqué le rôle du français, l'importance du français dans le monde des affaires. Quel est le poids de cette francophonie économique? Et est-ce que ça devrait être utilisé comme une motivation pour inciter de plus en plus de jeunes, de gens à apprendre le français?
Je le crois parce que, écoutez, dans l'espace francophone, et sur les 5 continents, donc nous sommes à la fois dans les Amériques, nous sommes présents en Afrique avec une 30aine de pays, nous avons 17 pays membres de l'Union européenne qui sont aussi de l'espace francophone, sans compter tous les pays européens qui ne sont pas de l'Union européenne mais qui sont dans l'espace francophone, donc des pays notamment d'Europe centrale et orientale. Nous avons aussi tous ces pays de l'océan Indien, un portail asiatique très important aussi avec la Corée du Sud qui a récemment joint l'espace francophone, mais surtout le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande également. Et quand on met tout cela ensemble, sans oublier les pays du Maghreb également, le Liban aussi du Moyen-Orient. Donc quand on met tout ça ensemble, on voit à quel point c'est un espace de possibilités. Donc, la francophonie économique en soi existe déjà. Il y a beaucoup d'échanges économiques, d'accords commerciaux dans l'espace francophone. Mais ce que nous voulons, c'est créer des synergies sur des assises qui sont davantage aussi de coopération, d'énergie nouvelle à apporter, de synergie nouvelle à apporter dans nos écosystèmes économiques. C'est-à-dire faire en sorte que, sur la foi de l'offre et de la demande, que l'on réussisse à amener davantage de pays qui sont laissés malheureusement dans la marge à se projeter et accéder à ces marchés qui sont là à disposition, sur une vision qui est intégrée, inclusive. On ne peut pas laisser se gaspiller autant d'efforts, de talents, de possibilités dans des pays qui vraiment foisonnent d'ingéniosité sur le terrain, de volonté. Et il nous faut repenser notre façon de penser les économies, de les aborder et voir que ce que l'on associe souvent à de la pauvreté est plutôt riche aussi de savoir-faire, de terres à cultiver, de secteurs à amener à une autre échelle, de chaînes de valeur qu'il nous faut renforcer davantage avec la professionnalisation, avec l'éducation, avec les nouvelles technologies, et ne pas laisser au rencard autant de populations qui pourtant sont si vaillantes et ont tellement à offrir. Donc cette façon, cette approche que nous avons de penser les économies, mais sur la foi d'un humanisme, est très intéressante. Et je pense que l'on peut montrer, nous de la francophonie, parce que nous pouvons témoigner de l'état du monde et de tous les défis, mais ce qu'il est possible d'accomplir dès lors qu'on en a la volonté. Et venir ici à New York, c'est aussi pour parler de cela, mais en mettant l'accent beaucoup sur ce que les femmes ont à offrir, sur ce que les jeunes ont à offrir, et tout nous donne raison, parce que l'on sait que toutes les études ont su le montrer, investir dans les initiatives qui sont portées par les femmes et par les jeunes, c'est un placement gagnant. C'est ce qu'il faut faire, ne pas le faire est déraisonnable. Et c'est tout de suite agir sur l'accélération de la croissance de manière partagée des pays, c'est agir sur le produit intérieur brut des pays. On voit tout de suite l'impact. Il est vérifiable, il est mesurable à très court et à moyen terme.
Voilà, et c'est avec Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, que se referme ce magazine Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec l'aide d'Isabelle Dupuis et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et sur les médias sociaux les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.